Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Du plus petit au plus grand, le vivant disparaît à un rythme effrayant. Fin octobre, une vingtaine de chercheurs européens ont publié dans la très respectable revue scientifique Nature une étude qui démontre que 67% des arthropodes ont disparu dans 300 sites de trois régions allemandes en 10 ans. Alors les arthropodes, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les insectes qui ont un corps en trois parties et des antennes. Ce sont eux qui aèrent les sols et qui maintiennent leur fertilité. 67% ont disparu en 10 ans à cause de l'agriculture industrielle et personne n'en parle. Espérons que l'Atlas du business des espèces menacées que l'association Robin des Bois vient de publier aux éditions Artaud ne subira pas le même sort. Là aussi, les chiffres et les pratiques font froid dans le dos. Éléphants, rhinocéros, tigres, ânes, tortues, le business de l'extinction animale étend sa toile sur la terre entière avec un chiffre d'affaires annuel évalué à au moins 14 milliards d'euros et qui progresse de 4 à 5% par an. Mais jusqu'à quand ?
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Charlotte Nita.
Bonjour.
Votre association Robin des Bois traque depuis le milieu des années 80 les acteurs de ce monde sidérant qu'on va découvrir avec vous, hein, ce monde sidérant du braconnage et du trafic d'espèces sauvages à travers un bulletin régulier que l'on peut trouver sur votre site qui porte bien son nom, À la trace. Et cette trace est de plus en plus grosse tant les trafics en tout genre se sont développés ces dernières années.
Ils se développent, ils se diversifient et ils sont favorisés par Internet et le commerce sur la toile qui favorise finalement les échanges, la mise en contact entre les vendeurs et les consommateurs. C'est aussi favorisé par la mondialisation des échanges, notamment les porte-conteneurs où les contrôles sont quand même assez rares ou alors il faut qu'ils soient ciblés, donc il faut qu'il y ait beaucoup de moyens d'investigation de police mis en amont pour les cibler.
Et puis des scanners aux frontières, etc. Très peu de pays sont équipés.
Et puis, il faut encore que les autorités locales aussi ne soient pas tentées de débrancher le scanner en échange d'un billet ou plus. Donc, c'est un trafic qui se développe, d'autant plus que ce qui est absolument cruel dans cette affaire, c'est qu'une espèce, moins il y en a, plus elle coûte cher. Il y a un véritable capitalisme de l'extinction. On sait par exemple que pour les rhinocéros, il y a des cornes de rhinocéros qui sont dans des coffres-forts et les propriétaires de ces cornes attendent qu'il n'y ait plus de rhinocéros pour les mettre sur le marché parce qu'à ce moment-là, ça vaudra encore plus cher. Et en plus de ça, certaines personnes qui veulent jouir d'un prestige extérieur, d'un signe extérieur de richesse, vont vouloir en avoir puisqu'il y en a quasiment plus. Donc d'en avoir, ça serait une preuve de supériorité, ce qui est plutôt une preuve, à mon avis, de connerie.
C'est vrai que la lecture de votre atlas est glaçante, tant par l'ampleur du trafic que par les pratiques que vous décrivez, toutes plus cruelles les unes que les autres. Je vais vous lire quelques extraits. Bon, il y a 32 espèces, mais là, par exemple, j'ai pris celles que les gens aiment bien. Alors, les lions. Je lis, entre 2008 et 2016, l'Afrique du Sud a légalement exporté 70 tonnes d'os de lion, ce qui correspond au démembrement de plus de 6000 spécimens et à une recette à l'exportation d'environ 25 millions d'euros. L'Asie réclame des os de lion à défaut d'os de tigre. Sur le marché africain, le kilo d'os de lion sauvage ou d'élevage se vend 360 euros le kilo et se revend en Asie jusqu'à 3200 euros le kilo sous l'appellation systématique d'os de lion sauvage. Allez, on zappe quelques pages plus loin. Les girafes. La girafe fournit 250 kilos de viande au Kenya. La consommation a été encouragée en mars 2018 par le ministre du Tourisme, sous pression des restaurateurs, des hôteliers et des agences de tourisme. Bah oui, un bon steak de girafe. La clientèle cosmopolite regretterait de ne pas pouvoir se régaler de gazelles et de girafes et d'être condamnée à se baffrer de crocodiles. Et on termine par les pangolins. Alors là, c'est l'ouverture de cet atlas. Je dois dire que Cette espèce, on en parle régulièrement dans C'est pas du vent, les gens la connaissent moins, hein, Charlotte Mittard.
Oui, il commence à être un peu plus connu depuis quelques années, mais c'est vraiment un sans-grade qui jusqu'alors n'était pas du tout connu.
Et alors vous dites, face à l'ennemi, le pangolin se roule en boule pour cacher sa tête et son ventre, seule partie de son corps à ne pas être protégée par son armure d'écailles coupantes. Dans cette posture, il peut rester des heures et faire perdre patience au lion qui essaye de le dérouler. Face au braconnier, cette stratégie non violente est un échec. Des pièges sont posés sur sa route, l'immobilisent, le mutilent. Des chiens de chasse sont envoyés à ses trousses, ses abris sont enfumés. Il n'y a qu'à se baisser pour attraper la pacifique boule. Le pangolin est culinaire et apothicaire. La chair, les écailles, le sang, la tête et les fœtus sont particulièrement recherchés en Asie pour leurs supposées vertus anticoagulantes, anti-inflammatoires, détoxifiantes, favorables à la lactation et aux menstruations. Bon, je m'arrête là, mais vous expliquez qu'il est plongé vivant dans l'eau bouillante pour faire tomber ses écailles. Voilà, 32 espèces au total sont passées comme ça sous votre lunette et sous vos descriptions avec la carte des flux de contrebande, le point sur les aires de répartition, les populations estimées. Comment est-ce que vous avez regroupé toutes ces informations ?
Alors, ces informations, elles sont regroupées grâce au bulletin à la trace que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'on a une veille quotidienne à travers le monde, à la fois des échanges réguliers avec tout un réseau d'ONG consoeurs à travers la Terre. C'est aussi des communiqués et des rapports par des organismes douaniers, par des ministères de l'écologie à travers le monde ou ministères des eaux et forêts et autres. Donc, plus de la presse locale, puisque c'est quand même un sujet qui, dans beaucoup de pays, intéresse de plus en plus les populations. Et donc, voilà, tout ça s'est recoupé, regroupé. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de choisir un peu des ambassadeurs ou des ambassadrices, des espèces ambassadrices de toutes les autres espèces animales qui sont persécutées pour ce trafic international, en essayant d'avoir des oiseaux, des organismes marins, aquatiques, des amphibiens, des grands mammifères, vous en avez cité, donc des reptiles, pour montrer que vraiment, que ce soit le papillon ou l'éléphant,
tout le vivant
a un usage, que ce soit décoratif, soi-disant curatif, ou pour la mode.
Alors, vraiment, c'est ça qui est assez vaste. Dingue et qui crée un petit peu des doutes, je l'avoue, sur l'intelligence humaine, finalement, c'est que le marketing est délirant autour de ces espèces. On raconte n'importe quoi.
On raconte n'importe quoi. En fait, les trafiquants, les businessmen de l'extinction surfent sur des vieilles croyances ou des peurs qui sont internationales, c'est-à-dire d'être malade. Ils exploitent finalement la détresse des familles et des gens pour essayer de se faire de l'argent. Donc, ils vont lancer par exemple la rumeur comme quoi la moelle épinière de girafe guérirait du sida. Bien entendu, il y a des gens incrédules et désespérés qui vont tenter cet autre remède qui est à leur disposition éventuelle. Donc tout d'un coup, c'est panique dans la savane et les girafes sont dégommées les unes après les autres pour finir en poudre alors que c'est totalement injustifié. C'est pour ça que l'information est importante pour contrer et démanteler ces rumeurs qui sont dispersées habilement soit par le bouche à oreille, soit par Internet et ça va vite.
Il y a les effets de mode aussi, un dessin animé, un film et hop, une espèce...
Et tout d'un coup, menacée. Ça s'est vu, on a vu ça avec, récemment avec les chouettes qui étaient dans Harry Potter, avec les poissons clowns aussi.
À cause de Nemo.
À cause de Nemo, absolument. Ouais.
Mais c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui voient des chouettes dans Harry Potter et qui disent « Moi, j'en veux une ».
Ah, moi, j'en veux une, oui, absolument. Ouais. Ouais. Sans se dire « Mais la chouette, c'est un animal sauvage, nocturne. En plus de ça, qui sont menacés dans la plupart des pays du monde, donc non. Mais là, c'est les parents aussi, je veux dire, c'est pas possible.
Il faut
pourquoi,
éduquer les parents aussi.
Oui, il faut enfin, tout le monde, les grands-parents aussi, tout le monde.
Et selon Interpol, c'est là où c'est inquiétant, parce que quand on voit les chiffres qu'il y a dans votre atlas, déjà, on se dit waouh, mais là, vous dites que donc Interpol, c'est l'Organisation internationale de police criminelle, les saisies ne représentent que 10% du trafic parce que les acteurs du trafic s'adaptent vite au
changement.
Et les yeux se ferment souvent au lieu.
Il y a beaucoup de pays où il y a des problèmes de corruption. Ça se voit, ou alors où c'est des officiels eux-mêmes qui participent à la chaîne de trafic. Il y a un préfet au Gabon qui a été arrêté avec, dans sa voiture de fonction, deux pointes d'ivoire qu'il essayait de revendre avec son épouse. Donc on voit que toutes les strates sont touchées par cette tentation de l'argent rapide. Les réseaux sont extrêmement réactifs et finalement, ce qui leur fait mal, c'est de se faire prendre avec et que les saisies, que les marchandises soient saisies, c'est une perte sèche pour eux. Donc dès qu'ils voient que dans un port, un aéroport, les douaniers sont plus vigilants, que les polices ont détecté quelles étaient les voies d'écoulement de la marchandise, hop, ils s'adaptent et ils passent à un autre endroit et ils changent leur tactique de planque. Là, récemment, il y a une nouvelle filière qui a été mise à jour. C'est depuis notamment la région des Grands Lacs vers l'Ouganda, des grumes de bois entières creusées à l'intérieur. Et à l'intérieur étaient disposées des écailles de pangolin, des défenses d'éléphants, le tout recouvert d'une cire qui a la même densité que le bois, puis recouvert, donc le tout fermé, d'apparence extérieure, une grume,
un tronc d'arbre
tout à fait classique. Et donc c'est que grâce à des scanners, et en l'occurrence c'était le cas en Ouganda, que le trafic peut être démantelé. Et alors là, dans ce cas, ce qui était particulièrement déprimant, c'est que finalement, les deux Vietnamiens responsables de ce trafic, une des saisies, c'était l'équivalent de plus de 2,2 millions d'euros. Donc c'est quand même énorme. Les deux gars ont été libérés par la justice contre caution de 3 500 euros.
Autre source de déprime, quand le 29 octobre dernier, la Chine annonce légaliser sur son territoire le commerce des cornes de rhinocéros et d'os de tigre à des fins thérapeutiques, en disant « Ah non, mais on prendra que ceux qui sont nés en situation d'élevage ». Là, c'est quand même un véritable désastre, non ?
C'est un désastre parce que le problème de l'élevage, qui est parfois proposé comme une solution pour réduire la pression sur les espèces sauvages, en fait, les élevages sont réapprovisionnés avec des animaux capturés dans la nature et servent à blanchir finalement le braconnage d'animaux tués dans le milieu sauvage. Après, une fois sous forme de peau, griffes, os, vins de tigre et autres, comment faire la différence entre provenance élevage et provenance sauvage? C'est impossible. En plus de ça, le consommateur, généralement, ce qu'il veut, c'est la puissance du tigre ou du rhinocéros. Donc, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir plutôt du sauvage. Donc, c'est une machine à blanchir. Et on sait très bien que plus il y a eu de tigres dans les élevages, moins il y en a eu dans le milieu sauvage. L'équation, elle est radicale.
Comme vous l'écrivez, au-delà de la disparition des espèces, le braconnage à cette échelle est un facteur majeur de dislocation des communautés locales. Il alimente l'instabilité politique et finance les groupes terroristes. On en parle dans un instant avec Benoît Dohamba, directeur de la faune et des ressources cynégénétiques au Burkina Faso.
Drag me away. decided to show me the sign.
Rolling Stones dans C'est pas du vent, Wild Horses.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Nous parlons du trafic des espèces sauvages aujourd'hui dans C'est pas du vent avec Charlotte Nittard de l'ONG Robin des Bois qui publie l'Atlas du business des espèces menacées chez Artaud. Alors Charlotte, vous nous avez expliqué l'ampleur de ce trafic, mais ses conséquences vont au-delà de la disparition des espèces. Pour le continent africain par exemple, c'est un véritable pillage en règle.
C'est un pillage, c'est l'appropriation par un petit nombre du patrimoine commun, du bien commun, avec en plus de ça des richesses qui finalement finissent dans les poches des caïds qui sont généralement en Asie, mais pas seulement, mais principalement quand même en Asie, avec sur place un facteur de déstabilisation, c'est-à-dire que ça fait circuler des armes, ça militarise les forêts et la savane, c'est un facteur de décohésion sociale aussi, puisque des fois vous avez dans une famille le frère qui est rangers et le cousin qui est braconnier, sont susceptibles de tomber nez à nez et que ça se finisse mal. Bien entendu, ça décourage les investissements économiques, notamment pour le tourisme de vision, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des investissements dans une zone où vous entendez des AK-47. C'est un facteur de pollution aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'actes de braconnage qui sont faits avec de l'empoisonnement de points d'eau, avec du cyanure ou des pesticides organochlorés qui sont interdits d'utilisation en Europe.
Carrément.
Carrément.
Quel type d'espèce, par exemple ?
Par exemple, pour les éléphants, la technique cyanure est très répandue, notamment au Zimbabwe, mais pas seulement. Et donc, vous avez après donc, l'éléphant qui meurt, mais pas seulement. Tous ceux qui boivent, plus tous les charognards. Donc, les vautours, qui eux aussi sont menacés d'extinction, y passent. Ça vous fait des sites pollués. Et puis, ça, c'est une ressource en eau qui est contaminée et dangereusement contaminée aussi pour les villageois. Donc, c'est tout un réseau d'impact, une synergie d'impact, plus bien entendu l'impact sur les écosystèmes qui, s'ils sont en bonne santé, c'est parce que les éléphants dans leur crottin dispersent des graines, parce que les girafes mangent que les pousses des arbres en haut, ce qui permet la végétation en bas de se développer, etc. etc. Enfin, les exemples sont innombrables.
Voilà, et chaque espèce a sa place, et quand une disparaît, ça déséquilibre l'ensemble.
L'ensemble.
Il faut rappeler voilà, la logique de l'écosystème. Alors, nous sommes en ligne avec Benoît Doamba, directeur de la faune et des ressources cynégétiques au Burkina Faso. Bonjour.
Bonjour madame.
Pouvez-vous nous rappeler la richesse de la biodiversité du Burkina, le nombre d'espèces de mammifères, d'espèces d'oiseaux, d'espèces de reptiles ?
Nous comptons 128 espèces de mammifères, 516 espèces d'oiseaux, 121 espèces de poissons et une soixantaine d'espèces de reptiles. Pour la grande faune, parce que quand on parle de mammifères, nous avons de grands mammifères. En ciel, je dirais que nous avons 850 éléphants au Burkina, selon les statistiques de 2016 au niveau de l'UICN, sur les 11 500 que compte l'Afrique occidentale. Il y a des grandes antilopes, des grands mammifères, les buffles, les antilopes chevales, les bubales. On peut compter vraiment des milliers, peut-être 40 000 environ pour les buffles, 30 000 pour l'antilope cheval et puis 20 000 pour le bubal, par exemple.
Le problème, c'est que l'essentiel de cette biodiversité est aujourd'hui dans une zone difficilement accessible pour des questions sécuritaires.
Effectivement, nous estimons que le 70% du potentiel faunique se trouve dans la région de l'Est, à la frontière avec le Niger et le Bénin. Et donc, ces zones qui sont bien sûr dans une insécurité.
Et alors, souvent, les experts disent que le trafic d'espèces sauvages permet de financer les groupes terroristes. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, sur le terrain?
Quand on connaît la valeur financière de l'ivoire et le potentiel en éléphants que nous avons, et quand nous regardons ces dernières années, le nombre d'éléphants abattus, ce n'est que sur le terrain, ce que nous voyons depuis les 6 ou 7 dernières années, et si, bien sûr, ça peut bien servir à financer quelque chose.
Donc vous constatez une hausse du trafic ces dernières années?
Oui, nous avons dit que c'est à partir de 2010 jusqu'à 2013 et 2014, on a vu beaucoup de trafic, beaucoup d'éléphants morts sur le terrain dû au braconnage. Mais présentement, étant donné qu'il y a l'insécurité, nous n'avons plus accès totalement aux zones pour vérifier, pour qu'on fasse des constats, si bien qu'on peut dire qu'on ne connaît pas la situation actuelle, mais nous savons bien que les éléphants subissent en tout cas beaucoup de braconnage pour l'ivoire.
Merci beaucoup Benoît Dehamba pour toutes ces explications et à bientôt.
Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup madame.
Charlotte Nittard, on entend bien à travers ce témoignage de Benoît Dehamba que la situation est assez critique pour des raisons sécuritaires au Burkina Faso et que l'impact, comme vous le disiez, est économique. Il déstabilise aussi les villageois, il déstabilise le pays. Et il y a une vraie inquiétude parce qu'ils ne savent même pas quel est l'état des lieux dans ces zones où plus personne ne va.
Où plus personne ne va. Dans tous les pays où il y a des conflits, finalement, tous les efforts de préservation, de protection de la faune et de la flore sont mis à mal par des groupes armés, par des milices. Et dans ces cas-là, bien entendu, les actions qui ont été entreprises sont extrêmement fragilisées. Et on sait que les groupes armés illégaux se financent en partie sur le dos des espèces animales et végétales. Et ça, bon, c'est l'ivoire kaki en Angola, dans les années 70, c'était déjà connu. Et ce phénomène se répète. Et c'est pour ça qu'on reste très prudent chez Robin Desbois sur les estimations des populations d'éléphants faites par des surveillances aériennes. Parce que finalement, même par avion, il y a des zones où il n'y a plus de surveillance et de comptage. Donc on a des visions qui sont seulement morcelées et qui permettent absolument pas de dégager des chiffres sûrs.
En tout cas, les estimations ne peuvent qu'être sous-évaluées, c'est-à-dire la situation ne peut être que pire.
Absolument. Et depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est ce lien entre instabilité politique et pillage des ressources et donc absence ou régression des actions de protection, ça, elle est évidente. Et c'est quelque chose qui est reconnu par les Nations Unies depuis longtemps.
Alors heureusement, il y a beaucoup d'ONG qui se mobilisent pour la préservation de la biodiversité sur le terrain avec une grande ingéniosité, comme ce déplacement d'éléphants qui a eu lieu en Côte d'Ivoire à l'initiative de IFAO. C'est un reportage de Maureen Grisot.
Endormi, transporté sur le plateau d'un camion, l'éléphant traverse plusieurs villages près de Daloa. Les habitants se massent sur le bord de la route pour crier leur soulagement, enfin libérés de cet animal qui leur a causé tant d'ennuis ces 3 dernières années. Ce sont des villageois qui guident les vétérinaires de IFAO, le Fonds international de protection des animaux, dans la forêt où ont élu domicile ces éléphants. Amos est l'un de ces pisteurs.
Ce matin, on l'a vu vers le village qu'on appelle Tavoura. Donc on l'a pu suivre jusqu'au bas-fond là-bas. Quand l'hélicoptère est arrivé, il a tiré sur lui. Vers ici, il est venu tomber. Donc, actuellement, on est en train de faire l'extraction.
Et pourquoi vous aidez AIFO là-dedans?
Bon, vous savez, ça nous a trop fatigués. Hein. Les éléphants nous ont trop fatigués ici. Donc, c'est un service en leur. Hein. Parce que c'est vraiment bien pour nous.
Et vous n'êtes pas un peu triste?
Si, carrément triste. Ça fait un peu mal au cœur de les voir partir. Ça fait un peu bizarre parce que c'était devenu pratiquement nos amis, mais qu'est-ce que vous voulez?
Vous avez pu le toucher?
Prochain, je vais aller pour garder ça dans un coin, comme un souvenir.
Pourquoi les poils de l'éléphant, c'est important?
Ah, mes petits-enfants, demain, il faut que je leur dise que j'ai vu l'éléphant. C'est pour, juste pour la prochaine génération. C'est pas donné à tout le monde de voir des éléphants.
Dans les cœurs de ces villageois se mêlent la crainte et la fascination. En envahissant leurs plantations, les éléphants sont entrés dans leur quotidien. Elton Patrick Lago est un autre de ces pisteurs.
Quelque part, je suis très content parce qu'ici, ils étaient en train de dévaster nos récoltes. Et si l'État ivoirien peut penser à nous, aux villageois, pour les dédommager, en tout cas, je serais très content. Parce que de nos jours, actuellement, nous n'avons rien à manger.
Il y a un éléphant que vous connaissez très bien, non?
Il s'appelle Plaisir, parce que et à chaque fois, quand il sort, on lui donne à manger, et il vient, et il joue de la simagrée avec nous. On enlève soit de la banane ou bien des oranges. Lorsqu'on lui donne, il avance vers nous. Raison pour laquelle on l'a nommé Plaisir.
Il fait quoi avec vous?
Il joue beaucoup avec nous, et on est familiarisés. Du moment qu'on a passé au moins 3 bonnes années avec eux, donc je sais comment il faut les adopter.
Est-ce que vous avez pris un souvenir sur l'éléphant?
Oui, j'ai pris des photos. J'ai pris de belles photos avec le premier éléphant qui est parti. J'ai un petit regret parce qu'après leur départ, et nos enfants ne verront plus cet animal. C'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, ça nous plaît beaucoup. Mais du moment que ça se déplace, aller dans une autre zone, vraiment, j'ai mal au cœur.
Depuis l'éclatement de la crise, nous avons constaté dans nos champs l'incursion des éléphants. Au départ, c'était une curiosité pour tout un chacun, parce que c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, on parle de l'éléphant de Côte d'Ivoire, mais c'était la première fois qu'au village, on découvre cet animal, parce qu'ils étaient habituellement parqués dans des zoos, dans des parcs où ils étaient protégés. Donc ils arrivent, on les accueille avec joie. Une semaine, deux semaines après, nous constatons que chaque jour, il y a quelqu'un qui est victime au niveau de sa plantation de ces éléphants. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils détruisent tout ce qui est vivrier dans la plantation. C'est là que le problème a commencé.
Vous n'avez pas envisagé de les tuer tout simplement?
Oh, sincèrement, avec l'ampleur des dégâts, les conséquences des dégâts au niveau des familles, dans le panier de la ménagère, parce que nous, on ne va pas en ville faire le marché dans un supermarché, et notre supermarché, c'est la plantation. Un mois, deux mois, trois mois, là, tu te dis, mais là, ils sont devenus non plus sacrés pour nous, mais des ennemis. Bien, un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à l'éliminer. Donc là, sincèrement, ce sentiment-là est passé dans l'esprit de tout un chacun. Mais un, nous n'avons pas vraiment les moyens de le faire. Deux, ils sont protégés. Trois, nous aimons les éléphants parce que, quelque part, c'est notre emblème.
Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de savoir que ces éléphants ont quitté les champs?
Un sentiment de soulagement. Soulagement parce que enfin nous allons pouvoir travailler en toute quiétude. Nous allons enfin pouvoir produire et profiter du fruit de nos efforts. Nous allons pouvoir enfin vendre. On n'arrive plus à vendre. Parce qu'un éléphant, il est tellement énorme. Donc que sa capacité de destruction est vraiment considérable. Nous bénissons vraiment ceux qui ont pris l'initiative de nous les enlever.
Un reportage de Maureen Grisot. Charlotte Nittard, on entend plusieurs choses dans ce reportage. Le fait qu'il y a des conflits, évidemment, entre les hommes et les éléphants, parce que quand il y a aussi déforestation et modification des écosystèmes, ben, les éléphants sortent de la forêt et vont piétiner les récoltes des villageois. Du coup, on sent que ces villageois, ils sont partagés, ils sont contents que l'association IFAO les déplace pour éviter qu'ils soient tués par l'énervement des villageois et puis qu'ils arrêtent de piétiner. Mais en même temps, ils se disent aussi, voilà, nos enfants ne les verront plus. C'est la perte de l'emblème de la Côte d'Ivoire.
C'est sûr, surtout qu'il en reste quand même très peu d'éléphants en Côte d'Ivoire. Comme il est dit dans le reportage, c'est une chance.
Globalement, les chiffres des éléphants, c'est, même si vous disiez on est très très prudent.
Alors, les plus optimistes parlent de 400 000 à travers le continent, 400 000 éléphants. Il faut savoir qu'en 1900, ils étaient 10 millions quand même. Hein. Donc c'est vraiment... une chute et que si, alors bon, il y a différents pronostics, mais si ça continue à ce rythme-là du braconnage, d'ici 15-20 ans, il pourrait ne plus y avoir d'éléphants, sauf dans quelques réserves clôturées, ultra gardées. Donc finalement, c'est plus d'éléphants en Afrique, quoi. Ouais. C'est une situation qui est vraiment dramatique. Et pour les rhinocéros aussi, enfin, il y a des tas d'espèces, mais l'éléphant, c'est vraiment particulier. Les conflits hommes-éléphants, bon, c'est un problème aussi d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que non seulement, vous le disiez, il y a les forêts qui sont coupées, donc l'éléphant en sort, mais il y a aussi les champs, les parcelles agricoles qui s'étendent. Il y a des corridors historiques de migration des éléphants qui ne sont pas respectés, avec des fois des villages ou des cultures qui sont implantées à ces endroits. Donc là, ce qui est positif, c'est que la situation se termine bien, l'éléphant est sauvé.
Parce alors, qu'effectivement, ils sont déplacés. Des fois, est-ce que c'est une bonne solution ?
Bah, quand vraiment vous avez une zone où les conflits sont, la tension monte et à tout moment vous risquez d'avoir un éléphant qui se fait braconner et on vous explique que c'est parce qu'il crée des dégâts, que donc c'est un conflit homme-éléphant, mais dans 99% des cas, les défenses ont disparu. Donc les conflits servent aussi parfois de prétexte pour tuer
les
éléphants.
En même temps, on peut comprendre les villageois, c'est-à-dire si non seulement ils piétinent les récoltes et qu'en plus l'ivoire peut rapporter de l'argent.
Oui, mais enfin bon, à ce moment-là, c'est une vous appropriez l'éléphant vivant pour vous tout seul. Donc, il faut faire en sorte que les cultures ne soient pas détruites ou le moins possible, avec des systèmes de défense. Il y a aussi Save the Elephant qui a tout un programme d'installation de ruches, parce que les éléphants détestent les abeilles. Donc, de ruches à certains endroits qui s'ouvrent pour que les abeilles sortent au moment où l'éléphant rentre dans un certain périmètre.
Je crois qu'on peut tremper aussi des draps dans du piment parce que l'éléphant déteste le piment.
Il y a plusieurs. Bon, suivant les régions du monde et suivant les sous-populations d'éléphants, il y a diverses astuces. Et puis, quand il y a des gros dégâts, bien entendu, il faut aussi que l'État indemnise les agriculteurs. Mais en tout cas, de shooter tout ce qui bouge et qui est susceptible de nuire aux champs n'est pas la solution. Et c'est une solution à court terme.
Restez avec nous, Charlotte Nittard. Dans un instant, nous irons au Gabon et en Namibie. Mais en attendant, on se détend sur RFI, c'est vendredi.
Balal be on batenye Wap tua Nguang muli yeni Nunua yigle ibon beyi Mbay so ikeyi Ngimintong minan ibon banan Ama keva wo uvani hinda koyokoyo ni kwem 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 ye jam jara ongeva vihoyala kweani ilama niga wo kweani tigwe vengim kuler ilama pen pepen la inge mapubi minyoli pem ipem ni mulunam.
Blic Bassi dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous parlons du trafic des espèces sauvages aujourd'hui dans C'est pas du vent avec Charlotte Nitard de l'ONG Robin des Bois qui publie l'Atlas du business des espèces menacées chez Artaud. Alors il y a des pays où même si dans une émission comme celle-ci on hésite à le dire, la faune sauvage est encore abondante. Le Gabon en fait partie. Bonjour Joseph Okuyi-Okuyi.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Agence des parcs nationaux du Gabon. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, faites-nous rêver un peu, est-ce que vous pouvez nous décrire la richesse de cette faune sauvage gabonaise ?
Avec plaisir. Vous savez que le Gabon est un pays essentiellement forestier, avec 88% de couverts forestiers et le reste c'est des savanes. Nous avons un peu plus de 800 km de côte. Et nous avons une faune, une biodiversité très, très, très riche, représentée par les Big Five qu'on a ici, notamment l'éléphant de forêt. Et juste à ce titre, le Gabon, avec son couvert forestier, reste un des refuges de l'éléphant de forêt, puisque c'est une espèce qui n'est observée qu'en Afrique centrale. Nous avons l'hippopotame, nous avons deux grands singes, notamment le gorille, le chimpanzé, nous avons le léopard, les grands antilopes que nous appelons le pongo, le buffle. Donc voilà, toute une biodiversité animale assez représentative de la biodiversité forestière. Le Gabon aussi est très connu pour être le site de ponte des tortues luttes, mais aussi l'une des zones de migration des baleines. La particularité du Gabon, c'est aussi le fait que c'est 800 km de côte et que cette faune forestière, de temps en temps, se retrouve sur la plage. Donc, vous avez la baleine d'un côté, l'hippopotame de l'autre, qui quitte la forêt ou les lagunes à côté pour surfer sur les vagues. On a l'impression qu'il se rappelle que ses ancêtres étaient marins et a tendance à y retourner de temps en temps pour prendre des bains salés.
Voilà, on vous a demandé de nous faire rêver, ça y est, c'est fait. Hein. On est sur la plage, à voir d'un côté les baleines, de l'autre côté les éléphants, c'est formidable, on a envie d'aller au Gabon tout de suite. Le problème, c'est que, comme partout ailleurs, hein, cette biodiversité est fortement menacée. Est-ce que vous observez depuis quelques années une hausse des trafics ?
Ben oui, et c'est justement ça le problème. Le fait que nous ayons une grande population d'éléphants au Gabon fait que pour ça attire des convoitises, notamment tous les trafiquants d'ivoire. Hein. Donc effectivement, le Gabon, depuis une dizaine d'années, a subi pas mal de pression liée au braconnage d'éléphants. Vous savez, le Gabon, c'est 867 160 km², 88% de forêt, c'est 1,8 million d'habitants, les villages sont localisés sur les routes, donc il y a énormément d'espaces qui sont vides. Et la nature ayant horreur du vide, ces espaces qui pour la plupart sont frontalières sont facilement pénétrables, hein, les frontières sont poreuses, et ça attire la convoitise des trafiquants qui viennent souvent des pays frères pour pouvoir, à des bandes organisées pour créer des forfaits, donc abattre pas mal d'éléphants. Le cas du parc national de Mikebe est un exemple, où nous avons enregistré ces 10 dernières années presque la perte de la moitié du cheptel hein, d'éléphants dans ce parc, lié au braconnage transfrontalier. Nous avons aussi du braconnage domestique, mais qui est assez limité. Donc effectivement, cette biodiversité animale attire des convoitises, que ce soit pour l'éléphant avec son ivoire, que ce soit le marché du pangolin, le pangolin avec ses écailles, qui devient très prisé, une forte pression sur le pangolin.
Alors, il y a une réunion en ce moment, excusez-moi, je vous coupe la parole parce qu'on va arriver à force à la fin de l'émission, mais il y a une réunion en ce moment à Libreville avec les représentants des polices, justement, des pays voisins. Est-ce que la lutte contre le trafic des espèces est à l'agenda ?
Écoutez, le trafic des espèces se fait par le mouvement de personnes. Donc, la question n'est pas présentée comme ça, mais la question liée à l'immigration illégale sont fortement traités lors de ces assises. Donc ce sont ces personnes qui viennent de façon illégale au Gabon, qui sont regardées aujourd'hui par cette assise, et que ces personnes-là commettent des forfaits comme le grand braconnage ou l'extraction des ressources naturelles comme l'or, le diamant, ainsi de suite. Donc ces questions-là, qui ont réuni les polices de la sous-région, parlent de criminalité, et la question liée à la criminalité environnementale sera aussi l'objet de discussions, parce qu'ils ont invité l'Agence nationale des parcs nationaux à présenter un peu la situation sur la criminalité environnementale qui se retrouve être quasiment impliquée dans toutes les autres formes de criminalité.
Et alors, est-ce que ces sujets intéressent les Gabonais ?
Oui, bien sûr que ça intéresse les Gabonais, dans la mesure où nous assistons en ce moment à un phénomène que nous qualifions de conflit armé éléphant. Et lorsque, c'est vrai que c'est une situation qui est assez dramatique, dont les populations gabonaises sont sinistrées, mais nous, quand on essaie de traiter le problème, on essaie de comprendre quelle est la cause. Et on en est arrivé à la conclusion que l'une des causes du conflit homme-éléphant actuellement, donc la destruction des plantations par le pachyderme, est liée en grosse partie au braconnage. Parce que à l'intérieur des espaces énormes comme Nitébé, les éléphants ne sont plus en toute quiétude. Et ces éléphants migrent vers les zones de toute quiétude qui restent être autour des villages, parce que les populations gabonaises ne sont pas des chasseurs d'éléphants, du moins de façon très réduite. Et à travers ces espaces de quiétude, les éléphants trouvent une alimentation facile, notamment les plantations, et ça crée évidemment ces conflits. Donc, le fait de regarder ce problème sur ce angle, et en expliquant ça aux populations gabonaises, elles se sentent concernées, parce qu'elles comprennent qu'avant, il n'y avait pas autant d'éléphants autour des villages, et elles se demandent pourquoi. Et à partir du moment où on leur explique, elles comprennent mieux, et elles deviennent quasiment nos yeux sur la forêt, et donc attirent notre attention sur des mouvements suspects autour de leur village. Comme ce fut le cas récemment, on a été alerté par les populations et nous avons pu intervenir et arrêter une horde de braconniers qui sévissait dans le secteur.
Merci beaucoup Joseph Okuyi-Okuyi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Agence des parcs nationaux gabonais. Charlotte Nittard, on comprend bien à travers ce témoignage que c'est un problème à dimension sous-régionale et pas uniquement nationale. Et c'est là la difficulté, parce que vous ne pouvez pas rester des heures avec Joseph Okuyi au téléphone, mais on entendait bien que ce soit au Gabon, au Burkina Faso, les pays abritent une faune extrêmement riche, mais ils n'ont pas les moyens finalement de la protéger.
Alors, non, ils n'ont pas assez de moyens pour la protéger. Et effectivement, on est face à des réseaux de criminalité organisée qui sont, eux, transnationaux, avec des espèces aussi qui sont migratrices. L'éléphant est un animal migrateur, pour parler de cette espèce. Donc, tout ça nécessite, appelle une coopération régionale, interrégionale, voire internationale aussi, puisqu'il faut l'aide aussi des pays où cet ivoire termine, c'est-à-dire principalement le marché asiatique.
Alors il y a quand même la CITES, il faut rappeler ce que c'est, la CITES.
La CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mais donc la CITES interdit, c'est l'annexe 1, le commerce international de certaines espèces, ou le contrôle, c'est l'annexe 2. Le problème, c'est que les réseaux, eux, sont opportunistes, et même si une espèce est inscrite à la CITES, si vous n'avez pas les moyens d'appliquer cette décision d'interdire ou de contrôler le commerce, il ne se passe pas grand-chose pour l'espèce.
Et puis, il suffit pas que, par exemple, un pays comme le Gabon, qui met en avant sa politique de protection des espaces naturels, s'il est seul et que les pays limitrophes ne sont pas engagés dans la lutte contre les trafics, c'est contre-productif.
Ça va être une passoire. Il peut y avoir des bulles de protection, mais finalement, elles sont éphémères et après, l'ivoire peut être évacué dans les pays riverains. Ce qui est notable aussi, c'est que les réseaux sont internationaux et sont multi-opportunistes. C'est-à-dire que vous avez au niveau régional, suivant l'espèce qui est présente et le cours des matières animales, une espèce qui va être ciblée. Ça, c'est pour les premiers échelons. Mais après, en ce qui concerne les trafiquants qui sont transnationaux, eux, ils sont multi-opportunistes. opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire à la fois... Non seulement multi-espèces, mais aussi parfois c'est les mêmes qui font du trafic de drogue ou de contrefaçon ou de médicaments périmés. Donc c'est des réseaux qui ont bien compris qu'avec les espèces menacées, il y avait beaucoup d'argent à se faire, avec des sanctions pénales qui étaient moins importantes, moins de risques. Donc voilà.
D'où la nécessité de sensibiliser, et nous l'avons dit dans cette émission, les aires protégées sont une des solutions pour protéger le vivant. Si vous voulez en savoir plus, sachez que le programme des aires protégées d'Afrique et de conservation de l'UICN lance une nouvelle session de MOOC sur la gestion des aires protégées en Afrique. Bonjour Geoffroy Mauvais.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes le coordonnateur de ce programme, alors rappelez-nous ce que l'on appelle une aire protégée rapidement.
Une aire protégée, rapidement, c'est un territoire où on fait de la conservation. C'est un territoire dont l'objectif premier, essentiel, est de conserver la nature.
Alors, il y en a beaucoup en Afrique et elle joue un rôle important dans la protection du vivant.
Elle joue un rôle essentiel comme ailleurs, pas plus en Afrique qu'ailleurs. Peut-être que en Afrique, elles ont la chance d'être plus intactes que dans d'autres régions du monde, mais leur rôle est le même, c'est celui de conserver la nature, la biodiversité autant que possible. Et bon, certainement, elles font l'objet de menaces tout aussi importantes qu'ailleurs, qui sont de nature un peu différente, comme vous l'avez évoqué dans vos discussions précédentes.
Alors, depuis 2015, vous mettez en ligne des MOOC, donc des cours sur Internet, sur la gestion des aires protégées à destination des étudiants et des professionnels du continent africain. C'est une expérience innovante et gratuite qui rencontre un franc succès. Je crois que vous avez eu plus de 30 000 étudiants comme ça par Internet. Quel est le contenu, en quelques mots? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces MOOC?
Alors oui, ce sont des cours en ligne qu'on peut suivre de n'importe où, à n'importe quel moment, à son rythme, gratuit effectivement. Pour le moment, on en a 6 qui sont en ligne, qui couvrent la gestion, la gouvernance des aires protégées. Il y en a un qui couvre l'application des lois, un autre le suivi écologique, un autre parle de valorisation des aires protégées, incluant le tourisme. Le dernier né traite de l'utilisation des nouvelles technologies pour la conservation. On parle de drones, on parle de caméras pièges, on parle de blockchain, etc. Et puis on en a un qui traite spécifiquement de la conservation des espèces, donc en relation là aussi avec les discussions que vous aviez avant. Ces cours se suivent donc en ligne, il suffit d'avoir une connexion. Et il regroupe des vidéos, des quiz, du matériel à lire, à télécharger, des examens à passer. On peut donc recevoir une attestation de réussite quand on réussit les MOOC. Et quand on passe tous les MOOC et qu'on passe un examen particulier, on peut recevoir un certificat qui est décerné par l'université Senghor de la francophonie.
Et comment peut-on y avoir accès rapidement? Quelle est l'adresse?
Alors l'adresse c'est tout simple, c'est www.mooc-conservation, tout ça au singulier, .org.
Eh bien nous mettrons évidemment cette adresse en ligne sur la page de l'émission. Merci beaucoup Geoffroy Mauvais pour ces précisions. Merci Charlotte Nittard d'être passée dans ces pas du vent. Merci. Rappelle le titre de votre livre, Atlas du business des espèces menacées, c'est publié chez Artaud. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission sur les réseaux sociaux. Vous découvrirez nos invités en vidéo et des contenus complémentaires. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast grâce à l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.